Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui au studio, Fabien Lombard, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes président du syndicat de la Clairette, ADI. Vous êtes ici pour nous parler de cette problématique, de cette décision du Conseil d'État qui annule donc l'exploitation de la Clairette Rose.
Oui, effectivement, ça a été une décision qui a moins d'une semaine maintenant, qui était vraiment un coup de massue pour tous les vignerons, les 300 vignerons de la vallée de la Drôme et du Diois, puisque depuis maintenant 2 ans, on produisait de la clairette de Die Rosée. Depuis bientôt 1 an, on commençait à en déguster et en apprécier ses qualités. Et là, le Conseil d'État, saisi par les vignerons de Cerdon, a dit stop, vous n'avez pas assez d'antériorité et donc vous ne pouvez pas commercialiser, produire de la clairette de Die rosée. Donc c'est une décision qui fait vraiment un choc, une déflagration dans le vignoble. Et aujourd'hui, on essaye de trouver des solutions pour continuer l'aventure.
Alors, cette décision du Conseil d'État est, semble-t-il, immuable, hein ? Elle ne peut pas être remise en appel.
Alors, le Conseil d'État, effectivement, c'est la plus haute juridiction française. Donc après, il y a aussi peut-être éventuellement des recours au niveau européen, qui est l'instance au-dessus. C'est des choses que nous, on étudie. Mais pour l'instant, nous sommes vraiment encore sous le choc. On regarde tout le champ des possibles. Les vignerons se réunissent, travaillent avec les services de l'État, avec l'INAO, pour trouver les meilleures solutions. Mais c'est vrai que pour l'instant, on est dans une phase de travail, de réflexion, et on n'a pas encore de solution à apporter actuellement.
Cette problématique lève le principe de l'appellation d'origine contrôlée, et puis avec son cahier des charges.
Alors nous, c'est vrai que nous, on avait un dossier qui était à notre regard... assez fort pour pouvoir défendre notre clairette de Die Rosée. Nous sommes en appellation d'origine depuis 1942, appellation d'origine depuis 1910. Donc on a quand même un passé historique avec l'AOC. Et ça montre cette décision du Conseil d'État que finalement on n'arrive pas à évoluer. Qu'une appellation, elle devrait être figée. En tout cas pour nous, on le ressent comme ça. Et c'est absolument pas ce qu'on imagine d'une appellation d'origine contrôlée moderne qui se veut évolutive quand même avec le temps et le monde actuel. Donc ça remet quand même pour nous vraiment en cause les possibilités d'évolution et ça nous questionne effectivement sur le système AOC. Pour l'instant, on a confiance au service de l'INAO, on va peut-être arriver à trouver des solutions, mais c'est vrai que c'est un coup dur porté à l'appellation d'origine contrôlée clairette de Die.
Alors, ce sont des termes qui sont contentieux, des termes qui sont utilisés pour présenter le produit de la clairette rosée et qui seraient, en contradiction avec le vin de Cerdon, c'est ça ?
Alors, sous couvert, d'un cahier des charges clairette de Die Rosée et d'attaquer notre cahier des charges sur l'antériorité, parce que ils estiment qu'on n'a pas assez produit pour pouvoir être en AOC. Derrière cela, il faut quand même voir un protectionnisme un peu exacerbé des vignerons de Cerdon. En tout cas, c'est comme ça que nous, on l'analyse. Ils veulent conserver un monopole sur un vin effervescent, doux et fruité. Mais sauf qu'aujourd'hui, on est dans un milieu ouvert, concurrentiel, et qu'on peut difficilement dire que qu'un concurrent ne peut pas exister et l'empêcher d'exister. Donc là, aujourd'hui, c'est purement anticoncurrentiel. Mais ils ont trouvé les bons arguments au Conseil d'État pour stopper notre projet en plein lancement.
Si je comprends bien, le vin de Cerdon serait le seul produit vin pétillant rosé existant en France ?
Alors, c'est pas le seul rosé, parce qu'on voit bien qu'il y a quand même des champagnes rosés, des crémants rosés. Et heureusement, il y a d'autres vins effervescents rosés. Mais c'est le seul sur la catégorie, comme la clairette de Die, des méthodes ancestrales doux et fruitées. Aujourd'hui, il y a Gaillac, Limoux, Clairette et Cerdon, qui sont les 4 appellations en méthode ancestrale. Les autres sont en blanc, effectivement. Et Cerdon était, pour l'instant, la seule en rosé. Et d'aller sur ce terrain-là, c'est ce qui les a agacés et qu'ils ont voulu conserver ce monopole et qu'ils sont allés jusqu'au Conseil d'État.
Alors, pourtant, en 2016, quand vous avez eu l'agrément de l'Institut national des appellations d'origine, vous aviez argumenté cette demande.
On a les cépages rouges, ils existent, on a la méthode ancestrale, on la maîtrise et on l'a mise au point, même bien avant Cerdon. On est, on a tous les arguments, parce qu'en 1908, on avait retrouvé des traces sur le rosé. Il y a aussi pas mal de choses dans la presse dans les années 1870. Tout cela, le Conseil d'État ne l'a pas regardé et l'a écarté d'un revers de main. Et donc, c'est pour ça que nous, on est déçus du traitement qui a été fait par le Conseil d'État, parce que nous, on avait des faits historiques au 19e siècle. On faisait bien du rosé dans la vallée. Et tout ça n'a pas été regardé sous cet angle, était regardé uniquement dans un passé de quelques années en arrière, dans les 5 à 10 années en arrière. Et c'est ce qui a bloqué dans le dossier. Mais pourtant, on a bien ce passé historique et on espère bien le faire valoir. Et la production de rosé, de vin effervescent rosé, en tout cas, n'est pas arrêtée, puisqu'on a la volonté, tous ensemble, de continuer l'aventure du rosé.
Je pense qu'on pourrait peut-être aborder aussi l'histoire de la clairette hein, à travers les âges. Et il semblerait qu'au XVe siècle, il existait une clairette rose.
Alors le vin claret était retrouvé effectivement dans les historiques, et donc de claret, clairette, vin clair ou vin légèrement coloré, on est sur cette idée-là de vin qui a un petit peu de couleur, ou qui est très clair ou qui est un peu coloré, mais en tout cas les cépages rouges existaient, le muscat rouge a toujours existé puisque c'est un mutant naturel du muscat blanc, et il y a l'exposition universelle de Vienne en 1873, il y avait une clairette ou un muscat rosé qui a été présenté. Donc, c'est pas une vue de l'esprit. Quand on a présenté notre dossier, on avait bien des arguments solides. Mais ils n'ont pas été retenus, encore une fois, par le Conseil d'État, même si nous, on a 1942 pour l'appellation d'origine contrôlée. C'est quelques années après les toutes premières appellations. Donc, on était vraiment dans cette démarche de qualité depuis le début dans notre vignoble.
Maintenant, vous vous retrouvez avec une quantité de production. Qu'est-ce que vous envisagez d'en faire ?
Alors, il y a eu deux années de production, 2016 et 2017. Pour partie, ça a déjà été dégusté et apprécié par le consommateur. Aujourd'hui, nous sommes en train d'étudier les solutions. Nous n'avons pas de réponse actuellement sur ces vins-là. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'ils ont été produits conformément au cahier des charges. Quand ils ont été produits, ils étaient en appellation d'origine contrôlée. Et maintenant, nous sommes avec les services de l'INAO et pour voir quel est le devenir de ces vins. Et pour l'instant, on n'a pas de réponse à apporter.
Oui, parce que malheureusement, la décision du Conseil d'État est rétroactive.
C'est-à-dire que la décision du Conseil d'État annule notre cahier des charges. Donc forcément, on n'est plus sur la partie rosé sur le cahier des charges. Les vins qui ont été produits, normalement, n'auraient pas dû exister. Mais on est quand même dans un système où les vins ont été produits conformément au cahier des charges. Donc ils sont bien là. On ne peut pas, les balayer d'un revers de main et de pas voir leur existence. Surtout que le vignoble a été durement touché par le gel au printemps dernier. En avril, on a eu des gelées très très fortes. On a récolté la moitié sur la récolte 2017. Donc les vignerons sont déjà très affectés. Donc on n'imagine même pas que ces clairettes de Die Rosé ne puissent pas continuer à alimenter un marché vital pour les vignerons. Mais encore une fois, on attend aujourd'hui des réponses et on est sur un travail de concert avec les services de l'État.
Et puis, je pense que vous allez certainement vous réunir, les vignerons, le syndicat, peut-être trouver des solutions à ce problème.
Oui, dès lundi dernier, on était déjà en réunion de bureau au syndicat pour analyser la décision du Conseil d'État. Pratiquement tous les jours, on est en lien au bureau pour avancer sur les solutions. Et très rapidement aussi, le conseil d'administration sera réuni. Et puis petit à petit, quand on aura des choses un peu plus vérifiées, fiables et solides, on pourra aller informer tous les vignerons des suites du dossier.
Ce qui touche particulièrement quand même le syndicat de la clairette, c'est la part de production de cette clairette rosée qui équivaut à combien de pourcentage ?
Alors en 2016, ce qui était connu, puisque 2017 on n'a pas encore tous les éléments chiffrés, mais en 2016 la production était de 4%. Donc c'est quand même pas l'essentiel de la production. Aujourd'hui, ce qui fait vivre notre vallée de la Drôme et le Diois, c'est quand même la clairette de Die Blanche. C'est 96% donc de la production. Mais malgré tout, on avait de grandes ambitions pour la clairette de Die Rosée. Et voilà, c'était un dossier très fédérateur qui motive tout le monde, mais qui motive encore tout le monde, puisque je pense qu'on ne peut pas arrêter un produit, un vin qui plaît aux consommateurs. On a bien vu depuis bientôt un an qu'il est commercialisé. C'est un vin qui plaît énormément, qui a un très bon accueil. Et donc, la machine est en route. Donc maintenant, on va trouver pour continuer à cette belle aventure.
Et puis, cruauté de l'histoire, le vin de Cerdon soit venu dans le Diois pour apprendre la méthode ancestrale.
Non, mais on n'explique pas tout. Il y a des fois beaucoup d'irrationnel dans le fonctionnement humain. Et là, on ne comprend pas pourquoi des vignerons qui sont venus en stage, pour beaucoup, dans les caves de l'appellation, que ce soit la cave Jaillance ou les caves particulières, pour apprendre la méthode ancestrale, apprendre la méthode de transfert, apprendre à faire des bulles effervescentes en méthode ancestrale, sont aujourd'hui autant remonter contre finalement leur référent en matière de vin. Donc c'est vrai que ça, c'est complètement irrationnel. Mais en tout cas, c'est le cas. On en a fait les frais, mais on ne s'avoue pas vaincu. On a perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre sur le rosé.
Quelles sont les possibilités que vous envisageriez pour recourir auprès du Conseil d'État? Parce que c'est par le Conseil d'État que vous devrez repasser pour le faire, ou c'est directement à l'Institut national?
Alors, aujourd'hui, les pistes, c'est de travailler avec l'INAO pour trouver des issues à nos vins en 2018. Le Conseil d'État ne peut être saisi que si un vignoble n'est pas satisfait de nos propositions, mais c'est seulement après une publication au journal officiel. Donc on n'en est pas encore au Conseil d'État. J'espère qu'on n'y passera plus jamais. Ça voudrait dire que notre dossier est solide et n'a pas été attaqué. Aujourd'hui, ce qu'on peut étudier, c'est que l'appellation d'origine contrôlée, c'est un peu vu comme une marque collective, finalement, dans la clairette de Die. On pourrait imaginer, mais ça encore, c'est à l'étude et on n'a pas forcément de choses qui sont, c'est pas une vérité, c'est des pistes, de travailler sur une marque collective qui ne serait pas donc clairette de Die, qui serait une autre marque, qui serait un chapeau pour notre méthode ancestrale. Afin de produire un vin rosé sous une marque collective. Et puis après, chacun pourrait bien sûr mettre sa marque d'entreprise dessus.
Mais la méthode ancestrale, c'est un mode qui existe et qui est établi par document officiel.
Le terme méthode ancestrale, des fois on appelle ça aussi la méthode dioise ancestrale. Sur certaines bouteilles, on voit encore ce terme-là. C'est un terme qui est propre à nos vins effervescents, doux et fruités. Qui sont donc sur les quatre appellations, mais ce n'est pas un terme qui est protégé au niveau européen. Donc nous, on l'a intégré dans nos cahiers des charges, mais il n'est pas protégé. Donc c'est pour ça que méthode ancestrale, on en parle, mais aujourd'hui, la protection n'est pas très forte de ce terme, donc ce n'est pas impossible de le changer, oui, en tout cas peut-être d'avoir un terme qui soit plus parlant, parce que méthode ancestrale, on pourrait faire peut-être auprès des auditeurs un test, je ne suis pas sûr que tout le monde puisse définir exactement ce qu'est méthode ancestrale, donc peut-être qu'un terme plus parlant serait aussi tout à fait bénéfique pour nos vignerons.
Méthode ancestrale, on peut dire séculaire, ça peut être une idée.
Oui, donc après, les idées sont ouvertes. Pour l'instant, on est que dans des phases de réflexion, il faut aussi nous évoluer. On voit que des fois, on ne peut pas évoluer avec l'AOC quand on veut mettre une couleur, mais en tout cas, il faut quand même toujours dans un vignoble savoir évoluer pour avancer.
Thank you.
On peut parler de la Clairette en général, et vous préparez pour prochainement le festival des espiègleries aussi.
Absolument, j'étais encore il y a un quart d'heure avec les personnes de l'association Festival Est-Ouest et avec nos équipes au syndicat pour, dans notre collaboration, préparer la programmation du Festival des Espiègleries, donc qui aura lieu toujours le week-end de l'Ascension à Die. Et puis cette année, donc, il y aura aussi une journée, la journée du vendredi, dans ce grand week-end de l'Ascension, qui sera la commune de Aurel. Donc on va sortir un petit peu des murs, hein, ce qui était déjà le cas l'année dernière. Mais là, on repart en redescendant un peu la vallée, donc on va sur Aurel, où il y a une belle dynamique locale, effectivement, aussi avec les acteurs locaux d'Aurel.
Est-ce que ces rencontres, ce festival des espiègleries dynamise les ventes de la Clairette?
Alors, c'est toujours délicat de faire un rapprochement vente avec animation, mais comme la communication en général, c'est toujours difficile d'évaluer l'impact. Mais en tout cas, on sait que ce premier week-end est vraiment un week-end fort dans la vallée, que les hébergements sont tous pleins, qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui viennent effectivement pour profiter de la Clairette, mais pas que, hein, de notre paysage, notre bien-être dans cette vallée. Et donc, nous, on est heureux de pouvoir participer à cette activité économique. Et si aussi il y a un peu des ventes dans les caveaux, c'est tant mieux. Mais on est vraiment là pour dynamiser effectivement notre belle vallée.
Et en dehors du syndicat de la Clairette, vous avez aussi participé à des opérations telles que le mois de septembre, le mois de la vigne.
Le mois
avec
de la vigne, oui.
Des restaurateurs ou des cuisiniers de renom.
Absolument, oui. Donc maintenant, le mois de la vigne, ça commence à s'inscrire dans les programmations d'automne. Donc le mois qui n'est pas un mois, qui va être plutôt une semaine, hein, d'activité et d'animation autour du vin, autour de la randonnée, à la fois à pied, à vélo, autour aussi de la gastronomie, parce que c'est important aussi de pouvoir associer nos vins au moment d'un repas. Et donc on travaille de plus en plus avec les restaurateurs pour avoir des menus autour de la Clairette ou des vins du Diois. Il ne faut pas oublier non plus Châtillon-Diois avec les blancs, les rouges, les rosés, qui sont très intéressants aussi à marier pendant cette manifestation. Effectivement, le syndicat de la Clairette, il a pour vocation à la fois de défendre l'appellation, et c'est ce qu'on fait par rapport aux rosés, et aussi comme vocation de promouvoir la Clairette auprès des touristes. Et donc avec les espiègleries et le mois de la vigne, ça fait partie des actions. Et puis aussi l'aménagement notamment du rond-point de Die, qui est bientôt terminé. Il y aura encore l'herbe, le gazon à mettre au printemps. Et puis les autres ronds-points qui seront dans la vallée de la Drôme jusqu'à Cré. Donc tout ça, ça participe à l'œnotourisme. Hein. Ce n'est pas un mot barbare, c'est vraiment faire de cette vallée une vraie vallée tournée autour du tourisme et aussi du tourisme viticole.
Est-ce que vous prévoyez d'autres ronds-points après Die en direction de Gap encore?
Alors, il faut déjà terminer le premier projet, c'est un gros, gros morceau hein, pour nous vignerons, même si on est suivi par tous les partenaires, et ça, c'est vraiment bien de souligner que de la commune, la communauté de communes, l'État, les fonds européens, tout le monde est vraiment dans ce dossier-là. Donc, on finit la première tranche des 5 aménagements jusqu'à Cré, mais effectivement, on a eu déjà des discussions avec les maires des communes en remontant jusqu'à Châtillon ou Lucandiois pour essayer de voir ce que l'on pourrait faire d'en haut. Pour l'instant, c'est une phase de réflexion, de projet. Nous, on va terminer qu'en 2019, l'aménagement du bas. Donc, c'est un projet qui sera plutôt pour après 2020.
Je vais revenir à cette histoire de Clairette Rose. Donc, c'est un coup de massue quand même pour beaucoup de vignerons. Est-ce que vous pouvez traduire un peu l'ambiance actuelle de leur part?
Je pense que pendant un moment, personne n'y croyait vraiment. L'ambiance que j'ai vue, j'ai ressenti qu'on pensait que c'était possible de ne pas continuer à en faire, mais personne n'y croyait vraiment. Donc ça a été vraiment très, très dur d'accepter. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est encore dans l'incertitude pour beaucoup de questionnements. Mais voilà, il y a vraiment eu un choc. Voilà, et on est encore sous l'état de choc, je pense. On n'a pas encore été au-delà pour l'instant.
En rajoutant l'année 2017, hein, entre le gel et ce problème d'appellation, est-ce que ça plombe un peu l'entreprise?
Ah, ça plombe le moral, je pense, des vignerons. Hein. C'est difficile après d'aller tailler dans les vignes et de trouver de l'énergie, des ressources pour continuer à produire nos vins. Malgré tout, peut-être que dans cette phase où on est un peu dans l'incertitude, où c'est difficile, c'est aussi une phase où on peut se reconstruire collectivement, où on peut travailler ensemble, et ça peut peut-être nous renforcer, c'est peut-être un mal pour un bien, hein. C'est pas forcément la volonté, on aurait préféré ne pas avoir de gel et avoir la clairette de Di Rosé, mais en tout cas je pense que ça va renforcer encore les liens, les tissus entre les vignerons, parce que dans ces périodes-là, il faut que se serrer les coudes pour continuer d'avancer ensemble.
Et puis la clairette rose que vous avez en possession demeure un trésor.
Absolument.
Et donc ces procédures à venir, hein, puisque vous allez peut-être opérer un recours auprès du Conseil européen ?
C'est des pistes. Aujourd'hui, on étudie toutes les possibilités. On n'a pas encore les retours. On a posé beaucoup de questions et on attend nous aussi de notre côté des réponses. Mais c'est à l'étude actuellement auprès des services juridiques.
En fait, il y a un cas d'entrave à produire un vin. Est-ce que ça peut tenir de pouvoir argumenter ce problème devant un pouvoir pour récupérer cette appellation ou ce droit d'exploiter ?
C'est vrai que le droit à la concurrence, c'est un droit qui est assez précis. On est libre de concurrencer les uns les autres. Ça, c'est un droit effectivement européen. Pour l'instant, nous, le Conseil d'État n'a pas jugé sur le droit à la concurrence. Il a jugé sur l'antériorité, la production, l'existence du produit. Donc du coup, on n'est pas sur le même registre. Mais par contre, si le vigneron de Cerdon s'entête à vouloir nous interdire de produire un vin rosé effervescent, dans ce cas-là, peut-être qu'on basculera vers plutôt une action en anti-concurrence, en fait. Mais pour l'instant, c'est trop tôt. On n'est pas sur cette phase-là, mais c'est vrai que ne pas pouvoir produire un vin effervescent rosé, c'est quand même anticoncurrentiel et donc ça peut poser quelques problèmes juridiques à terme.
Vous avez établi des contacts avec les vins de Cerdon pour essayer de trouver une solution à l'amiable où tout est arrivé sans prévenir ?
Alors, avant de déposer l'ensemble du cahier des charges auprès de l'INAO, il y a eu des rencontres, il y a eu des discussions. On a fait des aménagements dans notre cahier des charges, notamment avec, alors c'est assez technique, mais avec les proportions de cépages rouges qui rentrent dans l'assemblage du rosé. Donc il y a eu des avancées. À un moment, on pensait avoir eu un accord verbal, en tout cas sur notre cahier des charges, sauf qu'après, il y a eu de nouveau des oppositions et ça n'a pas arrêté la machine. Donc finalement, l'opposition était trop forte et même avec un dialogue constructif, on n'est pas arrivé à rentrer en discussion suffisamment longtemps pour calmer le jeu chez eux. Et donc, on a le résultat que l'on a aujourd'hui avec l'arrêté du Conseil d'État.
Alors, l'arrêté stipule également que l'État devra verser 3 000 euros d'indemnité au syndicat des vins de Bugey. Hein, pour ce vice de procédure à leurs yeux. Est-ce que vous, en étant lésé, parce que c'est le cas, vous auriez peut-être un recours aussi administratif pour essayer de récupérer ou d'avoir une reconnaissance à l'indemnité ?
Non, c'est pas à l'ordre du jour actuellement. Non, on n'est pas sur cette démarche-là. Mais c'est vrai que ça fait partie des procédures au Conseil d'État. Hein. C'est pas spécifique au syndicat des vins du Bugey. À chaque fois, il y a une mise de 1 000, 2 000, 3 000 euros à la charge de la personne qui perd, en fait, vis-à-vis de celui qui gagne au Conseil d'État. C'est assez classique.
Et là, étonnamment, c'est l'État qui perd. Hein.
Et là, oui, parce que c'est un arrêté de l'État qui a été attaqué. Et donc, c'est forcément l'État qui était à la défense avec l'INAO. Et non, pour l'instant, effectivement, les sujets principaux, c'est aussi la promotion de nos vins et donc avec les espiègleries qui se préparent en mai.
Quels sont les échos de la part des collectivités locales par rapport à cette situation ?
Alors, un écho très favorable. Les élus, les collectivités locales sont à notre écoute et sont prêtes à se mobiliser pour nous aider. Hein. Je pense que là, l'économie de la clairette est suffisamment forte pour qu'il y ait un réel intérêt de toutes les collectivités. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'action particulière mise en place, mais en tout cas, nous les solliciterons si on a besoin et je pense qu'elles répondront.
Eh bien, Fabien Lombard, merci beaucoup d'être venu nous parler de la problématique de la clairette rose. Et puis, nous espérons vous revoir tout prochainement, peut-être pour le festival des espiègleries, avec des plus beaux jours, hein, pour annoncer l'avenir.
Absolument. Merci.
Eh bien, bonne soirée.
Interview.
Au revoir.
Hey.
beurre.